Allô? C'est Jésus qui vous parle. Le Jésus. Eh oui, je suis enfin revenu pour montrer le droit chemin aux brebis égarées. Je me suis modernisé. J'ai le téléphone maintenant. Et je passe à Là-bas si j'y suis. L'émission élue par moi. J'entends déjà ceux qui crient « Oh, blasphème !» J'ai déjà entendu ça. Ils ne croient pas leurs oreilles, de même qu'ils ne voient pas ce qu'ils voient. Je voulais dire à cette dame qui affirme qu'il ne peut pas y avoir de Palestine, car, dit-elle, on n'en parle pas dans la Bible. Mais comment est-elle venue en Israël? En avion? Mais d'après son raisonnement, ce n'est pas possible. On n'en parle pas dans la Bible. Elle a certainement dû prendre quelques photos souvenirs de son voyage. C'est étrange. À part le suaire de Turin, entre nous c'est un faux, je ne connais aucune photo de l'époque. Enfin, n'a-t-elle pas rassuré sa famille sur son arrivée avec son portable dernier cri? À part le téléphone arabe, il n'y avait rien de semblable de mon temps. Où s'arrête la fable et où commence la réalité? Papa seul le sait.
Bonjour Daniel, c'est Geneviève de Nice. Je voulais vous remercier pour votre émission d'hier après-midi sur le sionisme américain, parce que je trouve que c'est très bien de s'intéresser à ce qui se passe ailleurs, même si on n'est pas d'accord, tout à fait d'accord. Voilà, il se trouve que je suis chrétienne évangélique, mais je veux dire évangélique française et non pas évangélique américaine. Je suis d'accord avec Monsieur Bush dans le sens qu'il croit en Dieu et qu'il croit en la parole de Dieu, mais je ne suis pas d'accord dans le sens qu'il fait la guerre, puisque la parole de Dieu nous incite à la paix et à aimer nos ennemis. Voilà ce que je voulais préciser. Je voulais dire aussi qu'à la parole de Dieu, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. Tout le monde s'en sert, même ceux qui n'y croient pas. Mais il faut quand même y prendre garde, parce qu'elle est vraiment la parole de Dieu. Et c'est elle qui aura le dernier mot sur la terre. Donc, nous devons y prendre garde. Et dans ce que vos amis ont dit, il y avait du juste et du moins juste. Et j'ai apprécié ce qu'a dit Monsieur Gershom, dans le sens qu'il a dit que le fanatisme faisait plus de tort à Israël qu'il ne fait du bien. En effet, Jésus va revenir régner, mais ce n'est pas les hommes qui vont préparer le royaume de Dieu, puisque la parole nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon Saint-Esprit. Et le Seigneur lui-même rétablira Israël de la façon qu'il a prévue. Et tous les hommes seront certainement confus et confondus de la manière dont ça se passera. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire simplement. Et que le Seigneur vous bénisse pendant cette année 2006, parce que lui seul peut donner de bonnes choses. Merci d'avoir écouté. Je vous salue. Au revoir.
Voilà, j'ai écouté l'émission de Daniel Mermet et j'ai été complètement terrifiée. Parce que j'étais vraiment loin de, d'imaginer ce genre de personne qui veut absolument assimiler les juifs à Dieu. Je n'ai absolument pas compris. Et de plus, pour tout dire, j'avais presque envie de rire tout en étant franchement angoissée.
Oui, bonjour, Jean-Claude de Saint-Étienne. J'écoutais votre émission hier sur les chrétiens sionistes et tout ça, ça m'a rappelé une réflexion, une citation du moins, de Desmond Tutu, qui a été quelqu'un d'important en Afrique du Sud. Il avait dit ceci, lorsqu'ils sont arrivés, en parlant des colons, lorsqu'ils sont arrivés, ils avaient la Bible et on avait la terre. À présent, ils ont la terre et on a la Bible. Voilà, au revoir.
Voilà quelques messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Pour finir cette année 2005, on va retourner en Amérique latine, on va retourner au Venezuela. Aujourd'hui, cette année pour nous, et pas seulement pour nous, a été marquée effectivement par l'Amérique latine. L'Amérique latine en première ligne face face à la mondialisation libérale et face à la domination yankee, l'Amérique latine rejette les politiques ultralibérales qui ont apporté instabilité, inégalité et souffrance sociale après l'Argentine, l'Uruguay, le Brésil, Cuba, toujours Cuba, Venezuela. C'est tout récemment la Bolivie, comme vous le savez, qui en votant pour Evo Morales a rejoint ce front, ce bloc anti-libéral. Évidemment, c'est pas si radical que ça, évidemment, c'est pas gagné, mais ça montre quand même qu'une autre politique est, sinon possible, au moins profondément souhaitée par ces peuples et ces pays d'Amérique latine. Evo Morales, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, on l'avait rencontré en 1997 à Cochabamba, alors que nous faisions le dernier parcours de Che Guevara à travers la Bolivie. Et on l'a dit et redit ces jours derniers, Evo Morales est un Indien, est Mara. Et alors, il y a eu un débat sur ces qualifications ethniques. Bah, effectivement, appartenir à une ethnie n'est pas une garantie que l'on fera une politique plus juste, plus solidaire et meilleure que si on ne l'est pas. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'élus dans ce continent qui se sont réclamés de leurs origines et qui ont fait des politiques tout à fait impopulaires, opposées au peuple, disons. Mais quand même, cette élection rappelle l'histoire. L'histoire, c'est un continent tout entier qui a été colonisé, et pas de la façon la plus tendre, pour s'accaparer des richesses, des ressources, et tout ça au prix, comme l'on sait, de ce qu'on a appelé un ethnocide. Et parmi les ressources convoitées, il y avait l'or, et il y avait la légende d'Eldorado. Eh bien, c'est là qu'on va, à Eldorado exactement, au Venezuela. On pourrait être quelque part au Brésil, on pourrait être dans le sud de la Guyane, par exemple, où nous étions allés aussi. Mais là, c'est au sud-est du Venezuela qu'on va retrouver eh bien, cette légende. Et pas seulement une légende, c'est aujourd'hui une ville, une drôle de ville qui s'appelle Eldorado. C'est la balade d'aujourd'hui dans la base, si j'y suis.
Ah, c'est l'endroit où elle va se baigner.
Aha.
C'est la plage de Cassil.
Et devant nous, c'est la chute. Alors, c'est quelque chose. C'est énorme, ce débit d'eau, cette chute bouillonnante. Et tout ça, c'est dans une pirogue à moteur, avec le pilote de la pirogue qui a sa radio. On arrive près de la chute. On commence à sentir les embruns de la chute. Et c'est comme à Belle-Île-en-Mer, c'est-à-dire que l'eau... qui est puissamment agité comme ça, produit une sorte de coton qui est à la surface de l'eau, comme ça. Là, on commence à sentir l'eau sur nous, enfin la vapeur, là.
C'est l'Ucaima, cette chute, c'est ce qui est. C'est la lagune d'Uyarimba.
Mais en fait, les Pemones sont toujours déplacés en bateau, en fait, en barque.
Dans le bote,
oui, c'est ça, avec ces bateaux-là. Mais bien sûr, sans moteur. Avec des rames.
Tu as connu cette époque-là?
Si. Todavía hay personas.
Mais oui, mais d'ailleurs, il y a toujours des gens qui se déplacent
de
avec des rames.
Camarata, bordeando la Ollantepuy, se van en una semana, remo.
D'ici à Calama, sur le fleuve, on est né en une semaine de rames.
El Pemón tiene raíces caribe y conoció mucho antes de que vinieran los extranjeros, antes de Cristóbal Colón sabía, era un buen navegante. Por eso sabe de botes, sabe de ríos.
Les Pemones, qui sont de souche caraïbe, connaissent très bien la rivière, ils savent très bien naviguer, de bien avant l'arrivée des Européens, bien avant même Christophe Colomb, ils connaissaient, ils savaient naviguer et circuler. Ils sont de la mer, loin d'ici.
Ah,
sí, cuando llegaron los colonos fue que se vinieron a refugiarse.
En fait, c'est surtout quand sont arrivés les colons, les étrangers, que les Pemones se sont réfugiés plus à l'intérieur des terres, se sont cachés.
Là, on longe d'autres cascades. C'est splendeur absolue. C'est des gradins de roches avec l'eau bouillonnante, turbulente, effervescente qui tombe. Avec des roches magnifiques. Ouais, tu dirais, je pense. Et là, une autre chute encore devant nous.
C'est une atmosphère formidable. Il fait chaud, doux, humide, mouillé. Tropical, quoi. Voilà, le mot qui convient, c'est tropical. C'est une splendeur. Et de temps à autre, des arcs-en-ciel qui se forment comme ça au-dessus de l'eau. Et qui disparaissent aussitôt. Et le ciel est très beau, bleu, avec des nuages gris comme ça, qui est encore superbe.
Ici, on peut se baigner, là, sous les douches, en fait.
Ouhou! On est très, très près, là, très près.
Et là, c'est possible de marcher, en fait, derrière le rideau de la chute d'eau. En passant derrière, de là.
Se ve así como imposible, pero adentro hay un pasillo.
De l'extérieur, on a l'impression que c'est impossible, mais en fait, quand tu es dessous, il y a une espèce de petite cavité où on peut passer.
Sí. En tiempo de verano, es muy diferente el paisaje.
L'été, c'est très très différent ce paysage, ça n'a rien à voir.
Este queda solamente el de la punta, el del medio.
Et ça se borra. La chute d'eau, elle ne fait plus que le milieu, au milieu, quoi. Et après, c'est à sec.
Mais d'où vient l'eau?
Del Carrao, de la Sierra de Lema.
Sierra de Lema, c'est une de
cerca
montagne.
Del Dorado.
Une montagne près d'El Dorado.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Antoine et avec Guy. Ouh, ah, les yeux là.
República Bolivariana de Venezuela.
La base Luis.
Ok. Bravo. Attention à la tête.
Ahora
allá, muchachos.
Eldorado.
Eldorado. Ahí va Eldorado. Enfin, on est.
La palanca para arriba.
Eldorado, ils ont cru à Eldorado. Et qu'est-ce que c'est Eldorado? On dit c'est un Eldorado. Eh ouais, on a cru à ça. On a cru qu'il existait dans cette région où nous sommes, au sud-est du Venezuela, qu'il existait un homme, un chef indien, dont la peau se couvrait de poussière d'or. Et il fallait aller voir cet homme et, si possible, récupérer un peu de l'or qui l'entourait. Et pour retrouver, pour découvrir, pour voir l'Eldorado, eh bien, des milliers d'hommes se sont battus, sont morts et continuent aujourd'hui de plus belle, puisque dans cette région, donc, de l'Amazonie, de la Guyane, qui rejoint aussi le Brésil, eh bien, il y a depuis quelques années, une nouvelle fièvre de l'or. Ça n'a jamais tout à fait retombé à Eldorado, où nous sommes. C'est un patelin, exactement ce que vous imaginez. C'est-à-dire, là, c'est samedi soir. C'est la double fièvre, à la fois la fièvre de l'or et la fièvre du samedi soir. Des vieilles Chevrolet déglinguées, du rhum, beaucoup de rhum, des mecs avec des chapeaux et des filles superbes, des putes plus ou moins âgées. Les plus âgées sont celles qui ont des dents en or et les très âgées n'ont plus de dents du tout. Voilà l'ambiance à Eldorado. C'est là qu'on va passer un instant avec sur les lieux de l'extraction de l'or avec des mineurs. On ira faire un tour avec Italo. Italo, c'est un Pemón, une des ethnies de la région, une des ethnies indigènes de cette région du Venezuela. Et puis on ira en prison, ouais, histoire de faire un petit tour à Eldorado. Il y a une prison où vécut et où passa fugitivement un certain Charrière. Oui, Henri Charrière, vous vous souvenez ? Papillon, celui qu'on appelait Papillon. Eh bien, il a séjourné dans cette prison et il y a laissé deux souvenirs. L'un, c'est qu'il a réussi à s'en échapper, ce qui était un exploit extraordinaire. Et l'autre, mais ça sera tout à fait à la fin de cette heure de là-bas si j'y suis, il a laissé un mot qui est papillon. Et on va savoir enfin ce que veut dire ce mot papillon. C'est jusqu'à 18h, c'est là-bas si j'y suis, ou à Venezuela.
Me dijiste que era firme como la palma llanera. Si la palma fuera firme, no la quema la candela. Que a mí me pueden llamar el cariño y los lamentos. Yo soy como la linterna que tengo la luz por dentro. De la rosa en los rosales, de los páramos del viento. Que hay una mujer bonita, un mal agradecimiento. Y el paradigma a la luz de Castillo. Duérmete ese palenco, porque de noche no sale la mujer de puta vez.
Ben voilà, le paysage ressemble exactement à ça, à ce que vous voyez, un chien assez efflanqué qui aboie au bout d'une ficelle, un ciel lourd, et on est à quelques kilomètres de Eldorado, cette petite ville de chercheurs d'or où on peut acheter et vendre de l'or et faire beaucoup d'autres choses, tout ce qu'on peut faire quand on a la pas de l'or et qu'on arrive à en obtenir un petit peu. Et là, on est sur une de ces installations, sur un de ces campements où on creuse en espérant ramasser un peu d'or. Et c'est une calamité. Depuis 1999, avec la hausse des cours de l'or, l'orpaillage clandestin a explosé dans les rivières amazoniennes, dans toute cette région du monde, la Guyane française, le Guyana, le Suriname, le Brésil, bien évidemment, et le Venezuela, là où nous sommes. Pourquoi est-ce que c'est une calamité ? À cause, évidemment, des conditions d'orpaillage. Des dizaines de milliers de chercheurs d'or artisanaux envahissent le pays, les paysages, la forêt, les parcs nationaux, les réserves naturelles, et ils dégradent les fleuves, les rivières, contaminent les eaux au mercure, et on va en avoir une preuve à l'instant même sous nos yeux. Le mercure est utilisé pour agglomérer l'or, hein, les poussières d'or qui auraient recouvert le corps de ce chef indien Eldorado. Eh bien, le mercure sert à agglomérer, vous allez voir comment. Et c'est les émanations de mercure, soit dans les fleuves, soit dans l'atmosphère, lorsqu'on chauffe pour séparer le mercure de l'or, qui constitue une pollution absolument terrible, parce que ça rentre dans la chaîne alimentaire, et c'est un poison très très violent qui et qui atteint les populations, on l'avait vu notamment en Guyane. D'autres destructions dues à cet orpaillage sauvage. Je dis sauvage, mais il y a des grandes entreprises qui aussi opèrent dans cette région et qui ne sont pas moins destructrices. Alors là, c'est un camp donc où nous nous trouvons. On peut pas dire qu'on soit vraiment les bienvenus. C'est un samedi en fin de journée, donc les gars se préparent à aller faire la fête à Eldorado, et la fête, c'est vraiment la fête. Mais ceux-là s'attardent, ils sont assis dans un trou d'eau, une sorte de trou d'eau carré, comme ça. C'est très beau, c'est une espèce de jaune d'or, tout à fait, c'est un jaune d'or, l'eau est couleur jaune d'or, la terre presque aussi, avec des nuances de rose et de mauve, de gris, etc., sous ce ciel très lourd. Mais tout ça, cette beauté du paysage, mes descriptions, on n'en a rien à foutre. La question, c'est, y a-t-il ou non de l'or dans cette eau boueuse, et s'il y en a, combien?
C'est mon vimiento.
Voilà, et là, ils ont mélangé leur substrat qui a été filtré de terre avec de la poussière d'or. Ils le mettent dans la bâtée où ils ont mis du mercure là, à la main, comme ça, tranquillement. Tu vois, là, quand ils bougent, on voit les gouttes de mercure qui glissent au fond de la bâtée. Et ils mélangent toute la poussière dans l'eau, là, accroupie dans l'eau, avec le mercure.
Il n'y a que les particules d'or qui se collent au mercure.
Et là, tu regardes dans le petit pot à gauche, il y a ce qu'ils ont déjà ramassé jusqu'à aujourd'hui. Ça fait une espèce de petite pâte argentée. Et après, ils vont le brûler.
Ils vont le brûler et on va séparer l'or du mercure. Et ce qui sera brûlé va se répandre dans l'atmosphère, dans l'eau, et qui contamine toute la chaîne alimentaire. Est-ce que c'est pas dangereux, le mercure?
C'est dangereux. C'est dangereux quand tu as une cicatrice, quand tu t'es coupé.
En réalité, non, c'est pour que l'autre vive.
À vrai dire, je ne sais pas pourquoi le.
C'est pour le danger à l'ambiente, les
pêches. Je crois qu'ils disent que c'est pour des questions de nuisance à l'environnement.
Quand on s'évapore, que ça quema.
Parce que quand on le brûle et que le mercure s'évapore pour récupérer l'or, là, ça peut être dangereux.
Le liquide, on n'en fait
rien. Le liquide comme ça, là, ça, c'est aucun risque, ça ne fait rien. T'as la fiole de mercure qui a même le sol. Et on fait ça pour éviter la contamination. C'est pour nous faire plaisir.
Para recolectar el oro.
Non, on n'utilise presque plus le mercure maintenant. Et il lui dit, oh, qu'est-ce que je suis fatigué.
Combien d'heures vous travaillez par jour?
10 heures.
Alors évidemment, par rapport à ça, le mercure, on s'en fout, quoi.
On fait 100 tonnes de terre par jour à peu près.
La machine, tu dis, hein?
C'est la machine qui est là-bas. Ils sont avec des gars, ils sont encore avec des jets d'eau en train de faire fondre en fait la colline, quoi, de faire de la boue et qui est immédiatement aspirée par une espèce de grande suceuse. Là, tu vois, c'est la canalisation qui va là et qui va derrière.
Si est terreno,
tamisé, ça arrive jusqu'au bout là, dans ce petit seau tout petit.
Si est terreno movido con tractores. Manda más.
Mais si on pouvait retourner toute la terre de ce terrain avec un tracteur, là, on peut en faire encore plus. On peut faire 200 tonnes de terre par jour.
Problème évidemment très difficile à résoudre. Hein. Et on comprend tout à fait que ces gens généralement très pauvres, très très pauvres, venus du Brésil ou bien habitants de cette région, cherchent à vivre tout simplement. C'est aussi simple que ça. Mais les dégâts sont absolument considérables sur l'environnement, sur la flore. J'ai évoqué le mercure, mais sur la faune aussi, parce que la destruction de la forêt, l'arrachage des arbres, de la végétation, met beaucoup plus de limon dans les fleuves. On le voit d'ailleurs quand on est en avion au-dessus dans le petit Cessna, au-dessus de la forêt, et on voit ces rivières. C'est très beau d'ailleurs, si on ne sait pas de quoi ce qui s'y passe. Ces fleuves comme des veines dorées comme ça à travers la forêt, sauf que le doré en question, eh bien, ce sont des limons qui viennent encrasser, disons, les ouïes des poissons, et ce qui fait qui est une catastrophe. C'est une série de catastrophes. Et il est très très difficile d'y mettre un terme, et tous ces soucis d'environnement, etc. Les gars le savent très très bien. Les gars qui sont devant nous le savent très très bien, mais ils ont d'autres soucis. Beaucoup d'autres soucis.
Je comprends pas ce qu'il a fait là. Il a un morceau de tissu dans la main.
Ah voilà, tu vois, on voit maintenant, on voit que les derniers grains de sable sont partis. Et lui, il fait gaffe parce que des fois qu'il y a des petites miettes là. Ah, il y en a un petit bout, est-ce que c'est une miette d'or? Non. Il regarde entre ses doigts. Oh, c'est une caillasse. Il la jette. Dommage. Voilà, il n'y a plus rien. Hop, un dernier petit coup.
Voilà, l'autre il se lève, ça fait 10 heures. Depuis combien de temps vous êtes à la croupie comme ça dans le...
Ça fait depuis midi. Et moi depuis le matin, dès le second. Depuis midi, il a le cul dans l'eau. Quoi.
Alors il y a combien d'heures là-dedans?
Patron,
ah, 12 grammes au moins.
12?
12, ouais.
12 grammes.
Peut-être 14, dit-il.
Alors maintenant, vous allez le faire brûler.
On va d'abord le nettoyer. Alors, on va nettoyer avec un petit coup de chlore et du vinaigre.
Alors d'abord du chlore et du vinaigre et ensuite
et après, on le brûle et après, ça se transforme en billet. Et après, on peut aller boire du rhum.
Tout ça pour boire du rhum.
Par contre, on peut s'acheter avec 12 grammes, on peut s'acheter une quantité de
rhum.
Mais ça dépend de la qualité du rhum, parce que si c'est des rhums avec des étiquettes bleues, alors là, on peut en acheter moins parce que ça coûte plus cher. C'est pour ça, en fait. Il y a un petit panneau, là, dans l'espèce de cabanon, qui dit que le jour de paye, on ne travaille pas, ni le lendemain. C'est vraiment pour ça, c'est parce que le jour de paye, et le lendemain, on va se...
On se détend, quoi, on va boire un coup. Ouais.
Oui, un coup, deux, ou trois, ou quatre.
Bon, il faut se détendre.
Voilà.
Mais j'ai pas compris ce que le gouvernement a changé pour vous.
Bueno, ha cambiado porque anteriormente uno estaba a la deriva, nadie.
Ça a changé parce qu'avant c'était un état. C'était un état à la dérive, personne ne protégeait quiconque. Avant on se battait beaucoup, il y avait la guerre pour l'or, maintenant non.
Depuis quand?
Depuis qu'est arrivé Chavez. Les choses ont changé depuis qu'il est arrivé.
Mais est-ce que tu gagnes mieux?
On est plus protégé, on est plus tranquille surtout.
Ahora, maintenant. Pero anteriormente, non.
Non, non.
Et ce que tu produis, c'est pour toi maintenant. Et là, il avance avec sa pelle maintenant, où il y a son mercure, son agrégat de mercure et d'or.
C'est un regalo para su esposa.
Ah, yo soy todo de ella.
Estaba haciendo un regalito de
hoy. C'est un cadeau pour son épouse. Ah, c'est elle qui l'a décidé. C'est
pour ma épouse. Je lui dis que je suis todito completico de ella.
Je suis tout entier pour elle.
Dame.
Et l'épouse, elle sourit, elle est ravie.
Bah oui, mais quand on la voit, on comprend. Hein.
Parce que elle, c'est vrai qu'elle ne bossait pas. Elle était assise sur la chaise en train de regarder les gars qui triment, quoi, tranquillement.
C'est par amour, l'or et l'amour.
Elle a
un bracelet de cheville en or. Alors voilà. Maintenant, on va procéder, on va brûler.
Moi, je recule. Moi aussi, parce
que... Elle se cache, elle va se cacher au fond.
Et ils vont se mettre un petit peu à l'écart à cause des vapeurs nocives. Et puis voilà, dans la pelle. Enfin, on brûle sous la pelle, comme de poêle, quoi. Et puis on s'écarte un petit peu parce qu'on sait ce que ça va faire. Voilà, là on voit vraiment les vapeurs de mercure qui s'évaporent, voilà, qui montent dans le paysage, là. Voilà, avec les quatre chiens qui sont là, les quatre types qui sont autour, et puis il y aura de ça quelques grammes d'or qui sortiront, peut-être 12 grammes maximum, voilà. Voilà l'or, ça dans sa cuillère, là, après qu'ils aient brûlé le mercure qui s'est évaporé dans la nature. Et ben voilà une cuillère. Combien c'est, quel poids?
12 grammes, moins ou moins.
12.
350 000.
350 000 bolivars, ça fait. $175.
$175 dans une petite cuillère, c'est pas mal.
Oui, c'est une question de suerte.
C'est une question de chance, de toute façon.
Allez,
on va les peser maintenant.
Là, il y a un Mac, la télé.
L'oxygène a démarré, les ampoules et hop, la télé. Les gamins tout de suite sont allés dans la télé.
13,3.
Finalement, le résultat de la pesée, 13,3 grammes.
Bon, maintenant, vous allez faire la fête?
Non, estoy echando broma. Claro, la gente, el minero común aquí que vive, el batero, si trabaja el día y en la tarde puro tomar.
Non, on va se reposer. Mais par contre, c'est avec tous les mineurs qui travaillent toute la journée ici avec leur baté, les bateros, alors eux, c'est sûr que le soir, ils vont boire. Et...
Pero yo no, yo tengo años trabajando la mina, tengo mi esposa.
Moi, ça fait des années que je travaille la mine, alors moi, j'ai mon épouse, j'ai mes enfants. Reste tranquille.
No puedo andar tomando rum así tampoco.
Je peux pas aller comme ça sortir pour aller boire du rhum toute la nuit.
Elle le laisserait pas partir.
C'est l'autorité.
C'est elle l'autorité, c'est elle la chef.
Mais vous avez reçu des aides du gouvernement?
Si. Todas las maquinarias que se han comprado el dinero del gobierno.
Ah bah toutes les machines qu'on a ici, par exemple, c'est avec l'argent du gouvernement. C'est-à-dire crédit.
En fait, ici dans la région, il y a des petits exploitants comme vous. Et puis, il y a de grosses sociétés multinationales.
Claro.
Oui, c'est ça.
T'as la Camorra.
La Camorra, c'est le nom d'une autre société.
Si, sí, eso trabaja.
C'est marrant, ça s'appelle Camorra.
Les Américains, ils s'appellent la Camorra.
De oro en esa broma.
Des tonnes d'or de là-bas, cette zone-là.
Si. Este, Hermes, ¿cuál es el nombre de la Camorra?
Ecla. La société la américaine, elle s'appelle Ecla.
Ah, c'est vous qui l'appelez la Camorra.
Ecla.
Et la mafia.
Claro, c'est une compagnie organisée.
C'est une compagnie organisée, ça.
Comme 10 autobus pour mobiliser les travailleurs.
Ils ont 10 bus pour transporter les ouvriers. Ils brassent beaucoup d'argent aussi, oui.
No sé exactamente, pero dicen que es semanal 200 kilos, 150
kilos. Y pareil, je sais pas que ce serait 200 kilos par semaine à peu près.
Une dernière question, tu es chaviste ou pas?
100%.
Ah, c'est la cuisine, là, elle est en train de faire la cuisine. Oh là là, ça sent l'huile.
C'est des galettes, parce qu'elle va cuire naturellement, avec ça, elle va faire des galettes d'arepa, c'est-à-dire des galettes de farine de maïs.
Oh.
Attends le bruit.
Gracias. Gracias.
Aquí me está grabando. Me llaman el Papural, el amigo del parrando. Escúcheme, amiga morena, en la noche del parrando. Óigame, compañero, que me encuentro empirado. Estoy en El Dorado y eso que soy de Valle Guanape. Y aquí me encuentro emparrandado. Esta noche, si Dios quiere, salgo por aquí para esta película. Supuestamente aquí me han grabado. El público que me está diciendo, dice que estás en El Dorado, viene son franceses y aquí me encuentro emparrandado.
Hola. Samedi soir à El Dorado, donc au sud-sud-est du Venezuela, une ville entièrement peuplée de chercheurs d'or. Si vous ouvrez un guide touristique au hasard, celui-ci par exemple, sur le Venezuela, vous avez un chapitre, tiens, les origines, très bien. Alors les origines, la première phrase c'est... C'est le 5 août 1498, au cours de son troisième voyage, que Christophe Colomb aborda pour la première fois le continent sud-américain, dans l'est de l'actuel Venezuela. Les origines, c'est donc le 5 août 1498. Auparavant, qui avait-il ? On fait commencer l'histoire à 1498. Avant Colomb, on ne sait pas ce qui se passait. Cette Amérique précolombienne, on en sait finalement pas grand-chose. Mais il y a quand même des survivants de cette histoire terrible qu'on connaît quand même, de ce qu'a été la conquête, et la conquête de l'or, par exemple. Souvenez-vous, les galions chargés d'or qui revenaient des Amériques et qui abordaient les ports d'Espagne ou du Portugal. Ces fortunes qui font qu'aujourd'hui, nous sommes qui nous sommes. Nous sommes cette Europe si prospère vis-à-vis de ce monde si pauvre et si hirsute, elle a commencé là. Eh ben non, évidemment, il y avait des hommes avant. Et ces hommes sont particulièrement tenaces. Les Indiens, les indigènes, ceux de ces régions-là ont été particulièrement tenaces. Beaucoup plus que les grandes civilisations, Inca, Aztèque et Maya.
parce que c'était des gens beaucoup plus de la brousse, beaucoup plus de la savane, beaucoup plus de la forêt, beaucoup plus des guérilleros informels, sans capital précise, sans non sédentaires, qui étaient beaucoup plus difficiles à cerner et qui ont réussi à survivre donc dans les conditions difficiles, mais qui n'ont pas renoncé dans leur résistance. Le nouveau gouvernement vénézuélien leur reconnaît un certain nombre de droits, on en a parlé hier, et là on est avec un homme tout à fait remarquable qui s'appelle Italo Pizarro. Italo Pizarro. Et il est un Pemón, donc de cette ethnie Pemón. Et c'est pas un Indien avec des plumes, désolé. C'est pas un Indien alcoolique et lamentable, pas du tout. C'est un type qui s'occupe, qui a sa communauté très à cœur. Il est un chef, on dirait un cacique ou un capitaine, c'est les noms que c'est qu'on donne. Et il a une grande culture sur l'histoire de son peuple et des Indiens du Venezuela, des indigènes du Venezuela. Et je pense que ça vaut le coup de passer quelques instants avec lui, chez lui, il nous reçoit gentiment avec ses mômes qui sont en train de regarder la télé dans la pièce à côté, et avec un livre traduit du castillan, c'est-à-dire de l'espagnol, au Pemón, sa langue à lui, qui raconte, qui retrace l'histoire de son propre père, l'histoire du père d'Italo Pizarro. Mémoire Pemón.
Aquí en Pemón se llama Cumután.
En Pemón, ça s'appelle Cumután.
Cumután. En castellano, San Miguel de Betania.
Et en espagnol, San Miguel de Betania.
Este es un pueblo Pemón, netamente Pemón. Los niños hablan Pemón, los adultos hablan Pemón.
C'est un village complètement Pemón. Tout le monde parle Pemón, les adultes, les enfants.
Vous êtes combien?
En el estado de Bolívar, se maneja de 35 000 Pemón.
Dans l'état de Bolívar, on est 35 000 Pemón.
En total serían ya más o menos como 45 a 50 mil.
Voilà, en total, effectivement, on sera 45 ou 50 000.
Alors ici, dans la région, est-ce qu'il y a d'autres peuples indigènes?
Sí, aquí estamos los Guarao, Cariña.
Il y a les Guarao, les Cariña.
Macoshi.
Les Macoshi.
Acahuayo.
Les Acahuayo.
Arahuaco.
Arahuaco.
Y algunos Guarao que están de otros estados.
Y quelques Guarao qui sont un petit peu disséminés.
Alors ça c'est ils sont combien? Ça c'est des tout petits peuples.
En total población indígena se habla de 333 000 indígenas.
On parle de 330 000 indigènes
vénézuéliens.
Porque hay 8 estados de Venezuela donde hay indígenas.
Parce qu'il y a 8 états du Venezuela où sont installés les indigènes.
O sea, los Pemones más que todo están en el estado de Bolívar.
Donc los Pemones, on est avant tout dans l'état de Bolívar.
Alors, revenons au livre de ton oncle là, ce livre qui est en espagnol et en Pemón.
Sí, él fue cacique.
Oui, il était
chef. De eso también habla. El papá de él, el padrastro de él era cacique.
Son père aussi était chef.
Y después fue él. Después de
après
él,
lui, donc celui qui était chef aussi dans ce village,
la zona, oui, dans cette zone. Después fue mi papá.
Après, ça a été mon papa.
Después de mi papá fue un hermano mío.
C'était un de mes frères.
Por parte de mamá. Y ahora yo, que ya tengo 14 años como capitán.
Et maintenant,
général,
c'est moi qui suis capitaine, donc cacique et chef ici depuis 14 ans.
Varias veces elegido.
J'ai été élu régulièrement.
Qu'est-ce que ça raconte, le livre?
Este libro cuenta la vida social, política,
la vie sociale et politique, donc.
También habla de las enfermedades, habla
des maladies,
de justicia,
de justice,
habla de minería,
de mines.
Cómo comenzaron y lo que actualmente ya vimos hoy.
Comment antes, a commencé la recherche de l'or, l'extraction de l'or.
Y la combinación de trabajo minero, lo que es el alcoholismo,
todo lo que sale
como producto de venta de comidas y negocios
est-ce
ambulantes.
Que ça a développé comme marché bueno, ambulant.
Incluso se han visto prostitución,
la prostitución aussi,
droga, en fin.
Au fond,
votre malheur, c'est l'or.
Sí, el oro ha sido mucho problemático porque ha traído.
Oui, l'or a été très problématique.
Enfrentamientos culturales.
Ça a amené des confrontations ou des chocs culturels.
Ah, entonces, eso ha llevado también a divisiones entre vers les mêmes communautés.
Ça a divisé les communautés dans les mêmes communautés entre elles.
Vous avez beaucoup de Brésiliens qui viennent, des garimpeiros du Brésil qui viennent.
Hay muchos brasileños aquí, hay dominicanos, colombianos.
Il y a des Brésiliens, des Dominicains, des Colombiens.
Como lo vimos, que están en la zona, que buscan el oro, entonces.
Dans cette zone pour chercher de l'or.
Siempre hay esa mezcla de todos.
También hay mélange là de guyaneses, los indios.
Sin embargo, hay algunas comunidades que viven, hablan su idioma.
Il y a des communautés qui vivent, qui parlent leur langue,
de su tradición,
qui pratiquent ses traditions,
y principios ancestrales que ha venido siendo.
Mais toujours quand même avec ce rapport à notre culture ancestrale.
Mm-hmm. Il y a une chose que Italo Pizarro connaît très très bien, c'est le chapitre 8 de la nouvelle constitution du Venezuela. Ça a l'air de rien dire, bon, eh bien, c'est une révolution. C'est une révolution pour... cette constitution constitue, c'est le cas de le dire, une révolution pour beaucoup de monde au Venezuela, pour beaucoup de Vénézuéliens, mais pour les indigènes tout particulièrement. Loi sur l'éducation des peuples indigènes et sur l'usage de leur langue, 18 juin 2001. Loi d'approbation de la convention numéro 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, etc., etc. Convention relative aux peuples indigènes, etc. Tout ça, loi organique sur la culture, vous dites, oh là là là, c'est des lois, c'est très très important. Là, on n'est plus avec de pauvres indiens, avec des ONG qui sont à leur chevet, avec des braves gens qui essayent de faire des choses sympathiques mais charitables. Non, c'est fini. Enfin, c'est provisoire, mais espérons que c'est définitivement fini. Mais en tous les cas, actuellement, voilà, il y a au moins une parenthèse qui est celle que ces hommes, ces femmes indigènes ont des droits. Et le pire, c'est qu'ils le savent.
Bueno, con el presidente, la relación ha sido algo nuevo para el pueblo Pemón.
Donc avec le président, la relation a été nouvelle.
Pero sin embargo, como estamos inmersos dentro de una política muy variada, todavía estamos allí no tan seguros, aunque está en la constitución, pero en la práctica
falta mucho. Tout ça est immergé dans une politique très générale de changement. Effectivement, on a un article dans la constitution, mais on attend que les choses vraiment concrètes arrivent.
De todos modos, pues el aprecio hacia el presidente ha sido muy demostrado por el pueblo indígena.
Mais tout le peuple indigène a apprécié l'arrivée du président.
Políticamente, también en la participación política tenemos representantes indígenas en la Asamblea Nacional.
Et donc maintenant, on a des représentants indigènes à l'Assemblée Nationale.
Que son tres indígenas.
Donc trois indigènes.
Un Awayú, un Hibi y un Pemón. Que nos representan a nivel político en la Asamblea Legislativa.
Voilà, donc trois indigènes qui nous représentent à l'Assemblée Nationale.
Y también a nivel regional, también tenemos una representación.
Y on a aussi une représentation au niveau régional.
Y municipal. A la misma constitución que le ha dado espacio para la participación política.
Constitution qui a donné de l'espace à la participation politique du peuple indigène.
Eldorado, toujours sud-est du Venezuela, dans la forêt amazonienne, petite ville de chercheurs d'or. Et là, on a pris une lancha, ça s'appelle, c'est-à-dire une barque à moteur qui traverse le fleuve qui coupe la ville en deux. Et ce fleuve nous conduit à une île. Une île un peu particulière, puisque cette île est une prison. Voilà, c'est la prison d'Eldorado. Et cette prison est fameuse, je le disais en commençant, parce que un certain Papillon Henri Charrière y a séjourné il y a bien longtemps et, comme vous le savez, s'en est échappé. Ça n'a pas échappé aux habitants de la région et les très rares touristes français qui s'aventurent dans le coin demandent toujours à visiter la prison. Et c'est possible. Il faut trouver le gardien, le directeur, voilà, il faut une autorisation, les militaires, machin, etc. Mais enfin, on finit par accéder. Et je ne sais pas si les touristes, bon, nous on est journalistes, alors peut-être que c'est un peu plus facile, mais je ne pense pas que ce soit très très difficile si vous êtes touriste. Et on s'attend à voir vraiment, on s'attend vraiment à voir une horreur. Et c'est pas tout à fait le cas.
On est avec le coordinateur en chef
de la prison d'El Dorado. Et cette prison est célèbre parce que Papillon y a séjourné. Henri Charrière y a séjourné. En 1945. Et il s'en est échappé. Et là, sur le toit de ce bâtiment, il y a des jeunes, des détenus.
Radio Française. Radio Francia.
Et qu'est-ce que vous faites sur le toit, là?
C'est ici qu'on vit, nous. En bas, on voit que les murs, donc ici, on a un peu d'espace, là, on a un peu d'horizon. La nuit, on est enfermé dedans, le jour, on monte sur le toit. Et là, on voit les copains qui jouent, là-bas, au volleyball.
Ah ouais, il y a ceux qui jouent au volleyball, voilà pourquoi ils sont sur le toit, c'est pour voir les autres.
Et là, c'est celle, ce qu'on appelle la maison jaune. Ah, ça, c'est la maison de redressement, quoi. Si c'est pour les condamnés, là, c'est le mitard, quoi.
Là, vous avez été jugé ou pas encore?
Hein? Oui, ça y est, ils ont été jugés.
Ils ont leur peine, d'accord.
20, 20, 25 ans.
Est-ce que vous avez des visites?
Aujourd'hui, c'est la visite, ouais. Il y a la famille qui va rentrer par là-bas.
Et vous pouvez recevoir vos femmes?
Voilà, il y a les visites conjugales là-bas, il y a une petite pièce spéciale.
Et pam pam. Il a ajouté.
Et pam pam. Ah ouais, mais c'est pas en France.
Attends. Non, c'est vachement
attends,
bien.
Tu rigoles? Bon, vous êtes pas trop maltraité?
Il était pensant au coordinateur qui leur fait un gros bras d'honneur.
Ah bah, on nous traite comme des prisonniers, quoi. En normal, comme des prisonniers. Une routine, quoi, normale. Donne-nous un billet, là, pour qu'on fasse une petite bouffe, là. Allez, il faut faire un cadeau, là. Il faut participer, là. Ah, si on veut leur donner quelque chose.
Je leur donne un petit bicheton.
Ouais.
Ah, oh, c'est drôle, il y en a un qui, en courant sur le toit, il a perdu son arme. Il avait un couteau dans son short, et le couteau est tombé sur le toit. Voilà, alors on a filé notre billet au chef, qui l'a donné au garde, qui l'a donné au coordinateur, qui leur a jeté exactement comme on jette des cacahuètes aux fauves, comme on donne à manger à des fauves. Et voilà, maintenant il remonte sur le toit. Bonne chance.
Suerte.
Suerte.
Joyeux Noël et merci beaucoup.
C'est la cantine.
La salle disciplinaire.
La salle disciplinaire.
Une salle de réclusion à part.
Là, c'est un petit cachot à part.
C'est comment la salle disciplinaire? Montre-moi la salle disciplinaire.
La salle disciplinaire.
C'est
la salle disciplinaire et c'est la maxima salle disciplinaire.
La salle là, c'est la salle disciplinaire et là, c'est la salle de discipline maximale.
Uh-huh. Aquí ven encerrado todo el día. Hoy están abiertos porque hay visita.
Normalement, ils sont enfermés toute la journée, mais là, aujourd'hui, il y a visite, donc c'est ouvert.
Ah oui, là, c'est vraiment la cage. Comme dans toutes les prisons du monde, les images au mur, la moto, la nana à poil, ou pas d'ailleurs, hein.
Hay agua, está hirviendo. ¿Sabes qué es esto? Miel, miel. Miel, miel.
Miel. Il fait te faire goûter leur miel d'abeille qu'ils ont ramassé dans la montagne.
Ah oh, ben je vais bien.
Miel, miel.
C'est vous qui faites le miel?
C'est yo la saco.
Oui, c'est moi qui l'ai ramassé.
Ah ok. C'est du miel que tu ramasses, mais c'est du miel sauvage, c'est du miel qui se fait naturellement. Là c'est le sport, ils jouent au basket, ils jouent au hand, ils jouent. Ils essayent tous de vendre quelque chose. Lui il vend un petit bracelet. Allez.
Bien. Puis on va voir des gens qui vont nous parler, qui travaillent, les ateliers, etc.
Yo, sí, sí.
Moi, je suis prisonnier aussi.
Ouais,
mais moi, je suis prisonnier, mais je travaille un peu à l'extérieur, donc je fais le jardin, etc.
Depuis quand tu es là, toi?
15.
C'est 15 ans que je suis là.
Ça fait 15 ans?
Et j'ai encore 5 ans à tirer.
Tout ça, moi, tu ne le
corta. Voilà, tu vois, je coupe l'herbe là, sur le bord de la route.
Si. Pour les gens qui travaillent,
il y a
la
cantine.
Tous les gens sont presos.
Là, tous les gens que tu vois, ils sont prisonniers comme moi. Mais là, c'est les
pauvres. Tous sont presos.
Ça, c'est une rue normale.
C'est une artisanie qui
est assez. Tu mets tes photos là.
C'est pour mettre la photo.
Alors lui, il vend des petits cadres pour mettre des photos en forme de cœur là, pour les gens qui visitent.
Voilà, son artesanía.
Trois photos là.
Et depuis quand tu es là, toi?
Yo tengo 5 años aquí.
Ça fait 5 ans que je suis là.
Llevo 15 años.
Ça fait 5 ans ici. Ça fait 15 ans en tout que je suis en prison. J'étais à Barcelone aussi.
Yo estaba en el penal de Margarita, el 89.
En 89 à Margarita.
El penal de Barcelona. Après
la prison de Bolívar.
Después, otra vez me llevaron para Barcelona.
Après, je suis retourné à Barcelone.
Otra vez para Margarita.
Encore une fois à Margarita.
Otra vez para Barcelona.
Retour à Barcelone.
Después para acá.
Après ici.
Después para Valencia.
Après à Valence.
Después otra vez para acá.
Après à nouveau, on m'a ramené ici.
Después para Carúpano.
Après à Carúpano.
Después otra vez aquí.
Et après, voilà, je suis là.
Donc, tu as passé toute ta vie en prison.
15 ans et 3 mois. Et je paye pour 24 ans, là.
24 ans.
Con una redención por el trabajo y el estudio que yo he trabajado, yo hago.
Et j'ai une remise de peine parce que je travaille et je fais des études.
Hago 21 años con la redención
del trabajo y el estudio. Je vais faire 21 ans avec ma remise de peine.
Comment tu t'appelles?
Astudillo Félix.
Astudillo Félix.
Sí. Me dicen Felito.
Felito.
Felito. Ok. Toi, tu as entendu parler de Papillon.
Est-ce que
tu as entendu?
Papillon, la historia que yo escuché de él es que él era un prisionero, buen ladrón.
J'ai entendu que c'était un prisonnier, un grand voleur qui était dans cette prison.
Se fugó de la cárcel más segura.
Et il s'est réussi à s'enfuir d'une prison qui était encore plus grande sécurité.
Nosotros los presos, los venezolanos aquí, tenemos este decir de él, que él agarraba su dinero y su prenda y él se papilloneaba. Por eso que nosotros teníamos papilloneaba, era que se metía la prenda en el culo.
Et nous, les prisonniers, ça nous est resté parce que lui, il avait de l'argent et en fait, il mettait de l'argent dans son cul. Et c'est de là que vient papillonner chez nous, parce que papillon, mariposa, ici, ça veut dire PD. Ça vient de là pour nous, les prisonniers du Venezuela.
C'est papillon parce qu'il était PD.
Si, dile, nosotros.
Parce qu'il cachait son fric dans son cul.
Que cuando queremos echarle broma a otro, le decimos, está empapilloneado.
Et quand on veut se foutre de la gueule de quelqu'un qui est un peu efféminé, on le traite de papillon.
Por eso, dice, mette la caleta de papillon.
C'est pour ça qu'on les appelle papillon.
Sí, por eso que
taqueaban. Taqueaban, que se metió una vaina por culo y se metía en un tapón.
Claro.
Voilà, il mettait un bouchon après.
Claro.
Pero yo estoy hablando, era. Claro. Yo sí sé porque yo he leído el libro y he visto las películas.
El libro, j'ai vu el film.
Sí, película. Entonces, resulta de que él vivía, la película es así, ve. Él era un prisionero que estaba en una isla.
Il est dans une île, c'est un prisonnier dans une île, voilà.
Entonces le llegó él y como pudo, evadió y brincó.
Voilà, il s'est débrouillé pour s'évader et pour filer.
Hizo una pequeña como balsa.
Fue un petit bateau.
Y salió de la isla y se fue. Coronó que fue el único prisionero que pudo. Fue el único prisionero que pudo evadir esa cárcel.
Qui a réussi à s'évader de cette prison-là.
La cárcel a nivel nacional en Venezuela más segura es aquí la Casa Amarilla.
La prison la
más segura. Nunca se han fugado.
La Maison Jaune.
De todas se han fugado, menos de esa.
De toutes les prisons, il y a des gens qui sont évadés. D'ici, personne.
Ni el otro que llamaban. ¿Cómo era que llamaban el?
En fait, la Maison Jaune, c'est juste la porte qui est jaune. Et les Mirador.
Casa Amarilla.
Allez,
C'était un reportage de Guy Vanquil, Antoine Chao et Daniel Mermet au Venezuela. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission là-bas si j'y suis. À la technique ce soir, Renan Mahé et Rémi Quincé. Cette émission a été réalisée par Antoine Chao et Yann Chouquet, assisté de Pascal Pascariello, chef du répondeur Christophe Imbert. Suite de ce périple au Venezuela, demain 17h dans là-bas si j'y suis.
La paz,
la paz
y la cuis.